Le monastère d'Ayanap. Le monastère d'Ayanap, Sainte Napa, est situé dans le village du même nom, au sein du district d'Amochostos, au sud-est de l'île de Chypre. Tant le monastère que le village tiennent leur nom du mot grec ancien « napi », qui signifie « vallée » ou « gorge boisée ». On trouve ce mot chez Homère dans l'Iliade, chez Pindare dans les Odes pythiques, ainsi que dans l'hymnologie de l'Église chrétienne. Autrefois, cette région était couverte d'une riche végétation, tandis qu'à l'emplacement actuel du village et du monastère, il y avait une gorge idyllique et une forêt parsemée de sources. Dans l'Antiquité, cette vallée abritait aussi une ville grecque nommée Tronie, ainsi qu'un sanctuaire dédié à Aphrodite. Suite à l'avènement du christianisme, la ville est en ruine. Cependant, la vallée boisée, aux eaux abondantes, devint un endroit très populaire auprès des chasseurs qui venaient des régions avoisinantes pour chasser. La nouvelle de la découverte de l'icône miraculeuse de la Vierge Marie s'est vite répandue dans les villages environnants et la grotte de cette vallée écartée a été transformée en lieu de culte et de pèlerinage pour les chrétiens orthodoxes de la région. L'icône fut nommée icône d'Ayanapa, c'est-à-dire de la Vierge de la forêt, et le pèlerinage a pris le nom d'Ayanapa. Les environs du monastère d'Ayanapa furent inhabités jusqu'en 1790. Les premiers habitants, originaires de Thessalonique, avaient quitté leur ville pour échapper à une épidémie de peste. Finalement, seules deux personnes survécurent, Nikolaos Kemidzis et son fils, qui a épousé une chypriote originaire du petit village de Panaya, situé au nord du monastère, à l'endroit où les cours d'eau d'Ayanapa prennent leur source. Toutefois, le jeune couple ne put s'installer à Panaya, car cette période fut marquée par un conflit aigu entre les habitants du village et les autorités turques d'Amochostos au sujet de l'approvisionnement en eau. Le couple trouva donc refuge en dehors du monastère d'Ayanapa. Ce fut le premier pas vers le peuplement d'une région qui tira ensuite son nom du monastère. La date exacte de la fondation du monastère d'Ayanapa n'est pas connue. La grotte, la cachette et le puits, qui existent sur le site du monument, témoignent de la présence d'une communauté chrétienne pendant la période byzantine. Le nom d'Ayanapa fut donné au monastère avant 1366. Cependant, le monastère actuel est un bâtiment du XVe siècle construit lors de la domination vénitienne. Ayanapa est mentionné pour la première fois en 1366 lorsque, selon le chroniqueur médiéval Léonce Marqueras, le roi, Pierre Ier, écrivit des lettres au pape et aux seigneurs de l'Occident. L'amiral, porteur de ces lettres, sortit de Famagouste et alla à Sainte Napa. Une deuxième référence à Ayanapa est faite en 1373. Marqueras écrit « Les Génois, avant de quitter Chypre, avaient envoyé à Gênes tous les biens ravis. Le 5 décembre 1373, il s'éleva une grande tempête. Les 6 galères se brisèrent à Sainte Napa, tous les hommes se noyèrent et les biens allèrent au fond de la mer. » Ces faits sont aussi rapportés par le chroniqueur Strambaldi. Il n'existe pas d'autres témoignages écrits sur Ayanapa datant de l'époque franque, de 1192 à 1489. On retrouve Ayanapa dans un rapport au sujet de Chypre qui fut soumis à Venise au milieu du XVIe siècle, ainsi que sur des cartes vénitiennes du XVIe siècle. Selon la légende locale, l'icône miraculeuse de la Vierge Marie fut découverte par un chasseur dans la grotte qui fut par la suite transformée en église. On raconte que c'est le chien du chasseur qui fut le premier à apercevoir l'icône resplendissante et s'est mis à aboyer sans arrêt pour attirer l'attention de son maître. La nouvelle de la découverte de l'icône se répandit et attira des fidèles qui se portaient en foule vers le lieu sacré. L'icône aurait été placée dans la grotte lors de la période iconoclaste de l'histoire byzantine, du 7e au 8e siècle, et fut ainsi préservée. La grotte fut agrandie et aménagée en église au 14e siècle. Selon une autre tradition, la fille d'une famille noble vénitienne, s'était réfugiée dans la grotte parce qu'elle refusait de céder à ses parents, qui s'opposaient à son mariage avec un jeune homme qui n'était pas issu d'une lignée aristocratique. Aux environs de l'an 1500, la riche vénitienne fit construire l'église, les cellules et un moulin à huile à ses frais. De plus, elle planta un figuier sycomore, Ficus sycomorus, près de l'entrée méridionale du monument à côté de la citerne. Cependant, le moulin ne fut placé dans le monastère que lors de la domination turque, 1571-1878. La fondation du monastère féminin s'est effectuée de manière progressive, tandis que la présence d'une chapelle latine a été confirmée par une étude élaborée aux frais de la municipalité et de l'église d'Ayanapa, indiquant que la nef droite de l'église avait servi de chapelle latine. Avant de mourir, la riche vénitienne fit ériger le monument voûté en pierre qui se dresse au sein de la cour ouverte, atrium. C'est là qu'elle voulait se faire enterrer, près de l'eau fraîche de la fontaine. Dans la partie nord de la cour, on peut voir une deuxième fontaine représentant une tête de sanglier. La croyance selon laquelle le monastère d'Ayanapa fut érigé à l'emplacement du monastère de Sancti Georgi Didadi manque de fondement. Par conséquent, l'hypothèse qui, en se basant tant sur la croyance susmentionnée que sur l'inscription dont fait mention l'anglais Drummond, veut que le monastère soit d'abord latin et par la suite grec orthodoxe, est tout à fait erronée. Par ailleurs, le monastère de Saint-Georges au Cap de Dade, ou Cap de Pila, est déjà connu au 7e siècle et se trouve très loin. En outre, le catholicon, l'église principale du monastère, est orthodoxe. Le seul élément latin dont la présence est avérée est la chapelle, se trouvant dans la nef droite de l'église. Il faut aussi noter que les monastères latins ne fonctionnaient pas au cours de la période ottomane, ni même comme orthodoxes. Au contraire, ils furent abandonnés et petit à petit tombèrent en ruine. Le monastère d'Ayanapa est mentionné déjà en 1625 comme monastère féminin orthodoxe par Pietro della Valle, après qu'il ait visité le site, ce que confirme le témoignage d'Étienne de Lusignan, qui révèle l'existence d'un certain nombre d'icônes miraculeuses de la Vierge Marie. Alexandre Drummond, qui visita deux fois l'île de Chypre en 1745 et en 1750, et en particulier le monastère d'Ayanapa, trouva une inscription en latin portant sur la reconstruction du monastère en 1530. L'inscription qui n'existe plus se lisait ainsi. « Hoc opus fieri fecerunt gubernatores fraternitatis sanctae nape, dus esset pro Hieronymus de Salaceris Oremesis civis famagustanus ad honorem beate virginis. » En effet, l'inscription se réfère à la porte d'entrée voûtée au sud-ouest, ainsi qu'au bâtiment composé d'un étage situé dans la partie avoisinant la place actuelle du village, qui était utilisée comme entrée secondaire. Ces édifices, en particulier celui d'un étage, doté de fenêtres vénitiennes typiques, datent du XVIe siècle. La fontaine, au sein de la cour, peut également être datée de cette même période. Le reste des édifices, ainsi que l'église, sont plus anciens. Comme déjà mentionné, le monastère était féminin en 1625. Pourtant, on ignore si cela était également le cas durant les périodes franques et vénitiennes. Quelques années plus tard, en 1668, il semble que le monastère devint masculin. Cependant, il semblerait que le monastère n'ait jamais accueilli un grand nombre de moines, malgré son immense propriété mobilière et immobilière. Selon les registres cadastraux de l'archevêché de 1758, la propriété foncière du monastère d'Ayanapa comptait de nombreux domaines, terres et champs d'oliviers qui s'étendaient jusqu'à Kato Lefkara. De plus, le monastère possédait deux dépendances, une à Prastio et une à Ormidia. Il faut aussi noter que le monastère d'Aios Georgios Ortakion, à l'ouest de Sotira, et celui d'Aios Nicandros, relevaient du monastère d'Ayanapa. Parallèlement, on trouve des références indiquant un très grand nombre d'animaux que le monastère possédait, moutons, chèvres, vaches. Cependant, le même inventaire fait mention d'une faible quantité de matelas et de lampes à huile à l'intérieur du monastère, ce qui indique que le monastère n'abritait que 3 ou 4 moines. Pour des raisons inconnues, cette même année, le monastère ferma ses portes. Toutefois, on apprend que quelques années plus tôt, en 1668, l'igoumène Pieri s'était rendu à Constantinople afin d'obtenir un firman, décret, du sultan Mehmet, confirmant les titres de propriété du monastère. Une autre source de 1773 se réfère au père économe, gestionnaire du monastère, connu aussi sous le nom de Monsieur le Père Makarios. Après une courte période, le monastère reprit vie. En 1800, les écrits font mention de 3 moines qui vivaient ici sous la surveillance du supérieur, Ioannikios. Un an plus tard, le monastère employait des salariés qui travaillaient les terres et possédait un bateau en partenariat avec Antonis Zimboulous de Larnaca. Une inscription gravée dans l'aile nord-est du monastère nous informe que des travaux de restauration ont été entrepris en 1813 sous la direction du co-évêque Spyridon de Trémitous. C'est au cours de ces travaux que l'ouverture de la porte d'entrée aurait été réduite et remplacée par la porte actuelle dotée d'un arc en ogive. Pourtant, suite au massacre de 1821 perpétré par les Turcs ottomans lors du déclenchement de la guerre d'indépendance grecque, le monastère fut dissous, le co-évêque de Trémitous s'enfuit à l'étranger et les terres du monastère furent louées à des agriculteurs de la région. En 1878, Chypre passa sous la domination britannique. Les cellules du monastère étaient en ruine et l'église du monastère servait déjà d'église paroissiale. En 1950, le monument fut restauré. Ensuite, l'église de Chypre proposa la conversion du monastère en centre œcuménique de conférences. Pourtant, aucune action ne fut entreprise, car les événements de 1974 et l'invasion turque plongèrent l'île dans une situation difficile. 2 ans plus tard, grâce à l'aide généreuse de l'église évangélique de Westphalie, des travaux d'aménagement furent enfin initiés et le centre fut inauguré en 1978. Dès lors, le monastère constitua un lieu de rencontre pour les églises chrétiennes de Chypre et du Moyen-Orient.